Histoire véritable, en sous-titre, de la mort de Jacques et Béatrix Cenci et de Lucrèce Petroni Cenci, leur belle-mère, exécutée pour crime de parricide, samedi dernier 11 septembre 1599, sous le règne de notre Saint-Père le Pape Clément VIII, Aldo Brandini. La vie exécrable qu'a toujours menée François Cenci, né à Rome, et l'un de nos concitoyens les plus opulents, a fini par le conduire à sa perte. Il a entraîné à une mort prématurée ses fils, jeunes gens forts et courageux, et sa fille Béatrix qui, quoiqu'elle ait été conduite au supplice à peine âgée de 16 ans, il y a aujourd'hui 4 jours, n'en passait pas moins pour une des plus belles personnes des États du Pape et de l'Italie tout entière. La nouvelle se répand que le signor Guido Reni, un des élèves de cette admirable école de Bologne, a voulu faire le portrait de la pauvre Béatrix vendredi dernier, c'est-à-dire le jour même qui a précédé son exécution. Si ce grand peintre s'est acquitté de cette tâche comme il l'a fait pour les autres peintures qu'il a exécutées dans cette capitale, la postérité pourra se faire quelque idée de ce que fut la beauté de cette fille admirable. Afin qu'elle puisse aussi conserver quelques souvenirs de ses malheurs sans pareil et de la force étonnante avec laquelle cette âme vraiment romaine sut les combattre, j'ai résolu d'écrire ce que j'ai appris sur l'action qui l'a conduite à la mort et ce que j'ai vu le jour de sa glorieuse tragédie. Les personnes qui m'ont donné mes informations étaient placées de façon à savoir les circonstances les plus secrètes lesquelles sont ignorées dans Rome, même aujourd'hui, quoique depuis 6 semaines on ne parle d'autre chose que du procès des Cenci. J'écrirai avec une certaine liberté, assuré que je suis de pouvoir déposer mon commentaire dans des archives respectables et d'où certainement il ne sera tiré qu'après moi. Mon unique chagrin est de devoir parler, mais ainsi le veut la vérité, contre l'innocence de cette pauvre Béatrix Cenci, adorée et respectée de tous ceux qui l'ont connue, autant que son horrible père était haï et exécré. Cet homme qui, l'on ne peut le nier, avait reçu du ciel une sagacité et une bizarrerie étonnantes, fut fils de Monseigneur Cenci, lequel, sous Pie V, Ghislieri, s'était élevé au poste de trésorier, c'est-à-dire ministre des Finances. Ce saint pape, tout occupé comme on sait de sa juste haine contre l'hérésie et du rétablissement de son admirable inquisition, n'eut que du mépris pour l'administration temporelle de son état, de façon que ce Monseigneur Cenci, qui fut trésorier pendant quelques années avant 1572, trouva moyen de laisser à cet homme affreux qui fut son fils et père de Béatrix un revenu net de 160 000 piastres, environ 2 500 000 francs de 1837. François Cenci, outre cette grande fortune, avait une réputation de courage et de prudence à laquelle dans son jeune temps aucun autre Romain ne put atteindre. Et cette réputation le mettait d'autant plus en crédit à la cour du pape et parmi tout le peuple, que les actions criminelles que l'on commençait à lui imputer n'étaient que du genre de celles que le monde pardonne facilement. Beaucoup de Romains se rappelaient encore, avec un amer regret, la liberté de penser et d'agir dont on avait joui du temps de Léon X, qui nous fut enlevée en 1513 et sous Paul III, mort en 1549. On commença à parler, sous ce dernier pape, du jeune François Cenci, à cause de certains amours singuliers, amenés à bonne réussite par des moyens plus singuliers encore. Sous Paul III, temps où l'on pouvait encore parler avec une certaine confiance, beaucoup disaient que François Cenci était avide surtout d'événements bizarres qui pussent lui donner des péripéties di nuova idea, sensations nouvelles et inquiétantes. Cela s'appuie sur ce qu'on a trouvé dans ses livres de contes des articles tels que celui-ci. Entre guillemets, pour les aventures et péripéties de Toscanella, 3500 piastres, environ 60 000 francs de 1837, et not un fou caro, et ce ne fut pas trop cher. On ne sait peut-être pas, dans les autres villes d'Italie, que notre sort et notre façon d'être à Rome changent selon le caractère du pape régnant. Ainsi, pendant 13 années sous le bon pape Grégoire XIII, Buon Compagni, tout était permis à Rome. Qui voulait, faisait poignarder son ennemi et n'était point poursuivi, pour peu qu'il se conduisît d'une façon modeste. À cet excès d'indulgence succéda l'excès de la sévérité pendant les 5 années que régna le grand Sixte Quint, duquel il a été dit, comme de l'empereur Auguste, qu'il fallait qu'il ne vînt jamais ou qu'il restât toujours. Alors on vit exécuter des malheureux pour des assassinats ou empoisonnements, oubliés depuis 10 ans, mais dont ils avaient eu le malheur de se confesser au cardinal Montalto depuis Sixte Quint. Ce fut principalement sous Grégoire XIII que l'on commença à beaucoup parler de François Cenci. Il avait épousé une femme fort riche, et telle qu'il convenait à un seigneur si accrédité, elle mourut après lui avoir donné 7 enfants. Peu après sa mort, il prit en seconde noce Lucrèce Petroni, d'une rare beauté et célèbre surtout par l'éclatante blancheur de son teint, mais un peu trop replète, comme c'est le défaut commun de nos romaines. De Lucrèce, il n'eut point d'enfant. Le moindre vice qui fut à reprendre en François Cenci, ce fut la propension à un amour infâme. Le plus grand fut celui de ne pas croire en Dieu. De sa vie, on ne le vit entrer dans une église. Mis 3 fois en prison pour ses amours infâmes, il s'en tira en donnant 200 000 piastres aux personnes en faveur auprès des 12 papes sous lesquels il a successivement vécu. 200 000 piastres font à peu près 5 millions de 1837. Je n'ai vu François Cenci que lorsqu'il avait déjà les cheveux grisonnants, sous le règne du pape Buon Compagni, quand tout était permis à qui osait. C'était un homme d'à peu près 5 pieds 4 pouces, fort bien fait, quoique trop maigre. Il passait pour être extrêmement fort, peut-être faisait-il courir ce bruit lui-même. Il avait les yeux grands et expressifs, mais la paupière supérieure retombait un peu trop. Il avait le nez trop avancé et trop grand, les lèvres minces et un sourire plein de grâce. Ce sourire devenait terrible lorsqu'il fixait le regard sur ses ennemis. Pour peu qu'il fût ému ou irrité, il tremblait excessivement et de façon à l'incommoder. Je l'ai vu dans ma jeunesse, sous le pape Buon Compagni, aller à cheval de Rome à Naples, sans doute pour quelqu'une de ses amourettes. Il passait par les bois de San Germano et de la Fagiola, sans avoir nul souci des brigands, et faisait, dit-on, la route en moins de 20 heures. Il voyageait toujours seul et sans prévenir personne. Quand son premier cheval était fatigué, il en achetait ou en volait un autre. Pour peu qu'on fît des difficultés, il ne faisait pas difficulté, lui, de donner un coup de poignard. Mais il est vrai de dire que du temps de ma jeunesse, c'est-à-dire quand il avait 48 ou 50 ans, personne n'était assez hardi pour lui résister. Son grand plaisir était surtout de braver ses ennemis. Il était fort connu sur toutes les routes des états de sa sainteté. Il payait généreusement, mais aussi il était capable, 2 ou 3 mois après une offense à lui faite, d'expédier un de ses sicaires pour tuer la personne qu'il avait offensée. La seule action vertueuse qu'il ait faite pendant toute sa longue vie a été de bâtir, dans la cour de son vaste palais près du Tibre, une église dédiée à saint Thomas. Et encore, il fut poussé à cette belle action par le désir singulier d'avoir sous ses yeux les tombeaux de tous ses enfants, pour lesquels il eut une haine excessive et contre nature, même dès leur plus tendre jeunesse, quand il ne pouvait encore l'avoir offensé en rien. « C'est là que je veux les mettre tous, » disait-il souvent avec un rire amer aux ouvriers qu'il employait à construire son église. il envoya les trois aînés, Jacques, Christophe et Roch, étudier à l'université de Salamanque en Espagne. Une fois qu'ils furent dans ce pays lointain, il prit un malin plaisir à ne leur faire passer aucune remise d'argent, de façon que ces malheureux jeunes gens, après avoir adressé à leur père nombre de lettres qui toutes restèrent sans réponse, furent réduits à la misérable nécessité de revenir dans leur patrie, en empruntant de petites sommes d'argent ou en mendiant tout le long de la route. À Rome, ils trouvèrent un père plus sévère et plus rigide, plus âpre que jamais, lequel, malgré ses immenses richesses, ne voulut ni les vêtir, ni leur donner l'argent nécessaire pour acheter les aliments les plus grossiers. Ces malheureux furent forcés d'avoir recours au pape, qui força François Sensi à leur faire une petite pension. Avec ce secours fort médiocre, ils se séparèrent de lui. Bientôt après, à l'occasion de ses amours infâmes, François fut mis en prison pour la troisième et dernière fois. Sur quoi les trois frères sollicitèrent une audience de notre Saint-Père le Pape, actuellement régnant, et le prièrent en commun de faire mourir François Sensi, leur père, qui, dirent-ils, déshonorerait leur maison. Clément VIII en avait grande envie, mais il ne voulut pas suivre sa première pensée pour ne pas donner contentement à ses enfants dénaturés, et il les chassa honteusement de sa présence. Le père, comme nous l'avons dit plus haut, sortit de prison en donnant une grosse somme d'argent à qui pouvait le protéger. On conçoit que l'étrange démarche de ses trois fils aînés dut augmenter encore la haine qu'ils portaient à ses enfants. Il les maudissait à chaque instant, grands et petits, et tous les jours il accablait de coups de bâton ses deux pauvres filles qui habitaient avec lui dans son palais. La plus âgée, quoique surveillée de près, se donna tant de soins qu'elle parvint à faire présenter une supplique au pape. Elle conjura sa sainteté de la marier ou de la placer dans un monastère. Clément VIII eut pitié de ses malheurs et la maria à Charles Gabrielli, de la famille la plus noble de Gubbio. Sa sainteté obligea le père à donner une forte dot. À ce coup imprévu, François Sensi montra une extrême colère, et pour empêcher que Béatrix, en devenant plus grande, n'eut l'idée de suivre l'exemple de sa sœur, il la séquestra dans un des appartements de son immense palais. Là, personne n'eut la permission de voir Béatrix, alors à peine âgée de 14 ans, et déjà dans tout l'éclat d'une ravissante beauté. Elle avait surtout une gaieté, une candeur et un esprit comique que je n'ai jamais vu qu'à elle. François Sensi lui portait lui-même à manger. Il est à croire que c'est alors que le monstre en devint amoureux, ou feignit d'en devenir amoureux, afin de mettre au supplice sa malheureuse fille. Il lui parlait souvent du tour perfide que lui avait joué sa sœur aînée, et se mettant en colère au son de ses propres paroles, finissait par accabler de coups Béatrix. Sur ces entrefaites, Roch Sensi, son fils, fut tué par un charcutier, et l'année suivante, Christophe Sensi fut tué par Paul Corso de Massa. À cette occasion, il montra sa noire impiété, car aux funérailles de ses deux fils, il ne voulut pas dépenser même un bayoc pour des cierges. En apprenant le sort de son fils Christophe, il s'écria qu'il ne pourrait goûter quelque joie que lorsque tous ses enfants seraient enterrés, et que lorsque le dernier viendrait à mourir, il voulait en signe de bonheur mettre le feu à son palais. Rome fut étonnée de ce propos, mais elle croyait tout possible d'un pareil homme qui mettait sa gloire à braver tout le monde et le pape lui-même. Ici, il devient absolument impossible de suivre le narrateur romain, dont le récit fort obscur des choses étranges par lesquelles François Sensi chercha à étonner ses contemporains. Sa femme et sa malheureuse fille furent, suivant toute apparence, victime de ses idées abominables. Toutes ces choses ne lui suffirent point. Il tenta, avec des menaces et en employant la force, de violer sa propre fille Béatrix, laquelle était déjà grande et belle. Il n'eut pas honte d'aller se placer dans son lit, lui se trouvant dans un état complet de nudité. Il se promenait avec elle dans les salles de son palais, lui étant parfaitement nu. Puis il la conduisait dans le lit de sa femme, afin qu'à la lueur des lampes, la pauvre Lucrèce pût voir ce qu'il faisait avec Béatrix. Il donnait à entendre à cette pauvre fille une hérésie effroyable que j'ose à peine rapporter, à savoir que lorsqu'un père connaît sa propre fille, les enfants qui naissent sont nécessairement des saints, et que tous les plus grands saints vénérés par l'Église sont nés de cette façon, c'est-à-dire que leur grand-père maternel a été leur père. Lorsque Béatrix résistait à ses exécrables volontés, il l'accablait des coups les plus cruels, de sorte que cette pauvre fille, ne pouvant tenir à une vie si malheureuse, eut l'idée de suivre l'exemple que sa sœur lui avait donné. Elle adressa à notre Saint-Père le Pape une supplique fort détaillée, mais il est à croire que François Sensi avait pris ses précautions, car il ne paraît pas que cette supplique soit jamais parvenue aux mains de sa sainteté. Du moins fut-il impossible de la retrouver à la secrétairie des Mémoriali, lorsque Béatrix étant en prison, son défenseur eut le plus grand besoin de cette pièce. Elle aurait pu prouver en quelque sorte les excès inouïs qui furent commis dans le château de Petrella. N'eût-il pas été évident pour tous que Béatrix Sensi s'était trouvée dans le cas d'une légitime défense? Ce mémorial parlait aussi au nom de Lucrèce, belle-mère de Béatrix. François Sensi eut connaissance de cette tentative, et l'on peut juger avec quelle colère il redoubla de mauvais traitements envers ces deux malheureuses femmes. La vie leur devint absolument insupportable, et ce fut alors que, voyant bien qu'elles n'avaient rien à espérer de la justice du souverain, dont les courtisans étaient gagnés par les riches cadeaux de François, elles eurent l'idée d'en venir au parti extrême qui les a perdus, mais qui pourtant a eu cet avantage de terminer leur souffrance en ce monde. Il faut savoir que le célèbre Monseigneur Guerra allait souvent au palais Sensi. Il était d'une taille élevée et d'ailleurs fort bel homme. Il avait reçu ce don spécial de la destinée, qu'à quelque chose qu'il voulut s'appliquer, il s'en tirait avec une grâce toute particulière. On a supposé qu'il aimait Béatrix et avait le projet de quitter la Manteletta et de l'épouser. Mais, quoiqu'il prît soin de cacher ses sentiments avec une attention extrême, il était exécré de François Sensi, qui lui reprochait d'avoir été fort lié avec tous ses enfants. Quand Monseigneur Guerra apprenait que le Seigneur Sensi était hors de son palais, il montait à l'appartement des dames et passait plusieurs heures à discourir avec elles et à écouter leurs plaintes des traitements incroyables auxquels toutes les deux étaient en butte. Il paraît que Béatrix la première osa parler de vive voix à Monseigneur Guerra du projet auquel elle s'était arrêtée. Avec le temps, il y donna les mains, et vivement pressé à diverses reprises par Béatrix, il consentit enfin à communiquer cet étrange dessein à Giacomo Sensi, sans le consentement duquel on ne pouvait rien faire puisqu'il était le frère aîné et chef de la maison après François. On trouva de grandes facilités à l'attirer dans la conspiration. Il était extrêmement maltraité par son père, qui ne lui donnait aucun secours, chose d'autant plus sensible à Giacomo qu'il était marié et avait 6 enfants. On choisit pour s'assembler et traiter des moyens de donner la mort à François Sensi l'appartement de Monseigneur Guerra. L'affaire se traita avec toutes les formes convenables et l'on prit sur toute chose le vote de la belle-mère et de la jeune fille. Quand enfin le parti fut arrêté, on fit choix de deux vassaux de François Cenci, lesquels avaient conçu contre lui une haine mortelle. L'un d'eux s'appelait Marzio. C'était un homme de cœur, fort attaché aux malheureux enfants de François, et pour faire quelque chose qui leur fût agréable, il consentit à prendre part au parricide. Olympio, le second, avait été choisi pour châtelain de la forteresse de la Petrella, au royaume de Naples, par le prince Colonna. Mais par son crédit tout-puissant auprès du prince, François Cenci l'avait fait chasser. On convint de toutes choses avec ces deux hommes. François Cenci ayant annoncé que pour éviter le mauvais air de Rome, il irait passer l'été suivant dans cette forteresse de la Petrella, on eut l'idée de réunir une douzaine de bandits napolitains. Olympio se chargea de les fournir, on décida qu'on les ferait cacher dans les forêts voisines de la Petrella, qu'on les avertirait du moment où François Cenci se mettrait en chemin, qu'il l'enlèverait sur la route et ferait annoncer à sa famille qu'il le délivrerait moyennant une forte rançon. Alors les enfants seraient obligés de retourner à Rome pour amasser la somme demandée par les brigands. Ils devaient feindre de ne pouvoir trouver cette somme avec rapidité, et les brigands, suivant leurs menaces, ne voyant point arriver l'argent, auraient mis à mort François Cenci. De toute façon, personne ne devait être amené à soupçonner les véritables auteurs de cette mort. Mais l'été venu, lorsque François Cenci partit de Rome pour la Petrella, l'espion qui devait donner avis du départ avertit trop tard les bandits placés dans les bois. Et ils n'eurent pas le temps de descendre sur la grande route. Cenci arriva sans encombre à la Petrella. Les brigands, las d'attendre une proie douteuse, allèrent voler ailleurs pour leur propre compte. De son côté, Cenci, vieillard sage et soupçonneux, ne se hasardait jamais à sortir de la forteresse. Et sa mauvaise humeur augmentant avec les infirmités de l'âge, qui lui étaient insupportables, il redoublait les traitements atroces qu'il faisait subir aux deux pauvres jeunes femmes. Il prétendait qu'elles se réjouissaient de sa faiblesse. Béatrix, poussée à bout par les choses horribles qu'elle avait à supporter, fit appeler sous les murs de la forteresse Marzio et Olympio. Pendant la nuit, tandis que son père dormait, elle leur parla d'une fenêtre basse et leur jeta des lettres qui étaient adressées à Monsignor Guerra. Au moyen de ces lettres, il fut convenu que Monsignor Guerra promettait à Marzio et à Olympio 1000 piastres s'ils voulaient se charger eux-mêmes de mettre à mort François Cenci. Un tiers de la somme devait être payé à Rome avant l'action par Monsignor Guerra, et les deux autres tiers par Lucrèce et Béatrix, lorsque la chose faite, elle serait maîtresse du coffre-fort de Cenci. Il fut convenu de plus que la chose aurait lieu le jour de la nativité de la Vierge, et à cet effet ces deux hommes furent introduits avec adresse dans la forteresse. Mais Lucrèce fut arrêtée par le respect dû à une fête de la Madone, et elle engagea Béatrix à différer d'un jour, afin de ne pas commettre un double péché. Ce fut donc le 8 septembre 1598, dans la soirée, que la mère et la fille ayant donné de l'opium avec beaucoup de dextérité à François Cenci, cet homme si difficile à tromper, il tomba dans un profond sommeil. Vers minuit, Béatrix introduisit elle-même dans la forteresse Marzio et Olympio. Ensuite, Lucrèce et Béatrix les conduisirent dans la chambre du vieillard, qui dormait profondément. Là, on les laissa afin qu'ils effectuassent ce qui avait été convenu, et les deux femmes allèrent attendre dans une chambre voisine. Tout à coup, elles virent revenir ces deux hommes, avec des figures pâles et comme hors d'eux-mêmes. « Qu'y a-t-il de nouveau ? » s'écrièrent les femmes. « Que c'est une bassesse et une honte, répondirent-ils, de tuer un pauvre vieillard endormi. La pitié nous a empêchés d'agir. » En entendant cette excuse, Béatrix fut saisie d'indignation et commença à les injurier, disant « Donc, vous autres hommes, bien préparés à une telle action, vous n'avez pas le courage de tuer un homme qui dort. Bien moins encore oseriez-vous le regarder en face s'il était éveillé. Et c'est pour en finir ainsi que vous osez prendre de l'argent. Eh bien, puisque votre lâcheté le veut, moi-même je tuerai mon père. » Et quant à vous autres, vous ne vivrez pas longtemps. » Animée par ce peu de paroles fulminantes et craignant quelque diminution dans le prix convenu, les assassins rentrèrent résolument dans la chambre et furent suivis par les femmes. L'un d'eux avait un grand clou qu'il posa verticalement sur l'œil du vieillard endormi. L'autre, qui avait un marteau, lui fit entrer ce clou dans la tête. On fit entrer de même dans l'autre un grand clou dans la gorge. De façon que cette pauvre âme, chargée de tant de péchés récents, fut enlevée par les diables. Le corps se débattit, mais en vain. La chose faite, la jeune fille donna à Olympio une grosse bourse remplie d'argent, elle donna à Marzio un manteau de drap garni d'un galon d'or, qui avait appartenu à son père, et elle les renvoya. Les femmes, restées seules, commencèrent par retirer ce grand clou enfoncé dans la tête du cadavre et celui qui était dans le cou. Ensuite, ayant enveloppé le corps dans un drap de lit, elles le traînèrent à travers une longue suite de chambres jusqu'à une galerie qui donnait sur un petit jardin abandonné. De là, elles jetèrent le corps sur un grand sureau qui croissait en ce lieu solitaire. Comme il y avait des lieux à l'extrémité de cette petite galerie, elles espérèrent que lorsque le lendemain on trouverait le corps du vieillard tombé dans les branches du sureau, on supposerait que le pied lui avait glissé et qu'il était tombé en allant au lieu. La chose arriva précisément comme elles l'avaient prévu. Le matin, lorsqu'on trouva le cadavre, il s'éleva une grande rumeur dans la forteresse. Elles ne manquèrent pas de jeter de grands cris et de pleurer la mort si malheureuse d'un père et d'un époux. Mais la jeune Béatrix avait le courage de la pudeur offensée et non la prudence nécessaire dans la vie. Dès le grand matin, elle avait donné à une femme qui blanchissait le linge dans la forteresse un drap taché de sang, lui disant de ne pas s'étonner d'une telle quantité de sang parce que toute la nuit, elle avait souffert d'une grande perte, de façon que pour le moment, tout se passa bien. On donna une sépulture honorable à François Sensi, et les femmes revinrent à Rome jouir de cette tranquillité qu'elles avaient désirée en vain depuis si longtemps. Elles se croyaient heureuses à jamais, parce qu'elles ne savaient pas ce qui se passait à Naples. La justice de Dieu, qui ne voulait pas qu'un parricide si atroce restât sans punition, fit qu'aussitôt qu'on apprit en cette capitale ce qui s'était passé dans la forteresse de la Petrella, le principal juge eut des doutes et envoya un commissaire royal pour visiter le corps et faire arrêter les gens soupçonnés. Le commissaire royal fit arrêter tout ce qui habitait dans la forteresse. Tout ce monde fut conduit à Naples enchaîné, et rien ne parut suspect dans les dépositions, si ce n'est que la blanchisseuse dit avoir reçu de Béatrix un drap ou des draps ensanglantés. On lui demanda si Béatrix avait cherché à expliquer ses grandes taches de sang. Elle répondit que Béatrix avait parlé d'une indisposition naturelle. On lui demanda si des taches d'une telle grandeur pouvait provenir d'une telle indisposition. Elle répondit que non, que les taches sur le drap étaient d'un rouge trop vif. On envoya sur le champ ce renseignement à la justice de Rome, et cependant il se passa plusieurs mois avant que l'on songeât parmi nous à faire arrêter les enfants de François Sensi. Lucrèce, Béatrix et Giacomo eussent pu mille fois se sauver, soit en allant à Florence sous le prétexte de quelque pèlerinage, soit en s'embarquant à Civita Vecchia. mais Dieu leur refusa cette inspiration salutaire. Monseigneur Guerra, ayant eu avis de ce qui se passait à Naples, mit sur le champ en campagne des hommes qu'il chargea de tuer Marzio et Olympio. Mais le seul Olympio put être tué à Terni. La justice napolitaine avait fait arrêter Marzio, qui fut conduit à Naples, où, sur le champ, il avoua toute chose. Cette déposition terrible fut aussitôt envoyée à la justice de Rome, laquelle se détermina enfin à faire arrêter et conduire à la prison de Corte Savella, Jacques et Bernard Sensi, les seuls fils survivants de François, ainsi que Lucrèce sa veuve. Béatrix fut gardée dans le palais de son père par une grosse troupe de sbires. Marzio fut amené de Naples et placé lui aussi dans la prison Savella. Là, on le confronta aux deux femmes, qui nièrent tout avec Constance, et Béatrix en particulier, ne voulut jamais reconnaître le manteau galonné qu'elle avait donné à Marzio. Celui-ci, pénétré d'enthousiasme pour l'admirable beauté et l'éloquence étonnante de la jeune fille répondant au juge, nia tout ce qu'il avait avoué à Naples. On le mit à la question, il n'avoua rien et préféra mourir dans les tourments. Juste hommage à la beauté de Béatrix. Après la mort de cet homme, le corps du délit n'étant point prouvé, les juges ne trouvèrent pas qu'il y eut raison suffisante pour mettre à la torture soit les deux fils de Sensi, soit les deux femmes. On les conduisit tous quatre au château Saint-Ange, où ils passèrent plusieurs mois fort tranquillement. Tout semblait terminé, et personne ne doutait plus dans Rome que cette jeune fille si belle, si courageuse, et qui avait inspiré un si vif intérêt, ne fut bientôt mise en liberté, lorsque, par malheur, la justice vint à arrêter le brigand qui, à Terni, avait tué Olympio. Conduit à Rome, cet homme avoua tout. Monsignor Guerra, si étrangement compromis par l'aveu du brigand, fut cité à comparaître sous le moindre délai. La prison était certaine et probablement la mort. Mais cet homme admirable, à qui la destinée avait donné de savoir bien faire toute chose, parvint à se sauver d'une façon qui tient du miracle. Il passait pour le plus bel homme de la cour du pape, et il était trop connu dans Rome pour pouvoir espérer de se sauver. D'ailleurs, on faisait bonne garde aux portes, et probablement, dès le moment de la citation, sa maison avait été surveillée. Il faut savoir qu'il était fort grand. Il avait le visage d'une blancheur parfaite, une belle barbe blonde et des cheveux admirables de la même couleur. Avec une rapidité inconcevable, il gagna un marchand de charbon, prit ses habits, se fit raser la tête et la barbe, se teignit le visage, acheta deux ânes et se mit à courir les rues de Rome et à vendre du charbon en boitant. Il prit admirablement un certain air grossier et hébété, et allait criant partout son charbon avec la bouche pleine de pain et d'oignons, tandis que des centaines de sbires le cherchaient non seulement dans Rome, mais encore sur toutes les routes. Enfin, quand sa figure fut bien connue de la plupart des sbires, il osa sortir de Rome, chassant toujours devant lui ses deux ânes chargés de charbon. Il rencontra plusieurs troupes de sbires qui n'eurent garde de l'arrêter. Depuis, on n'a jamais reçu de lui qu'une seule lettre. Sa mère lui a envoyé de l'argent à Marseille, et on suppose qu'il fait la guerre en France comme soldat. La confession de l'assassin de Terni et cette fuite de Monseigneur Guerra, qui produisit une sensation étonnante dans Rome, ranimèrent tellement les soupçons et même les indices contre les Sensi qu'ils furent extraits du château Saint-Ange et ramené à la prison Savella. Les deux frères, mis à la torture, furent bien loin d'imiter la grandeur d'âme du brigand Marzio. Ils eurent la pusillanimité de tout avouer. La signora Lucrèce Petroni était tellement accoutumée à la mollesse et aux aisances du plus grand luxe, et d'ailleurs elle était d'une taille tellement forte, qu'elle ne put supporter la question de la corde. Elle dit tout ce qu'elle savait. Mais il n'en fut pas de même de Béatrix Cenci, jeune fille pleine de vivacité et de courage. Les bonnes paroles ni les menaces du juge Moscati n'y firent rien. Elle supporta les tourments de la corde sans un moment d'altération et avec un courage parfait. Jamais le juge ne put l'induire à une réponse qui la compromit le moins du monde. Et bien plus, par sa vivacité pleine d'esprit, elle confondit complètement ce célèbre Ulysse Moscati, juge chargé de l'interroger. Il fut tellement étonné des façons d'agir de cette jeune fille qu'il crut devoir faire rapport de tout à sa sainteté le pape Clément VIII, heureusement régnant. Sa sainteté voulut voir les pièces du procès et l'étudier. Elle craignit que le juge Ulysse Moscati, si célèbre pour sa profonde science et la sagacité si supérieure de son esprit, n'eût été vaincu par la beauté de Béatrix et ne la ménagea dans les interrogatoires. Il suivit de là que sa sainteté lui ôta la direction de ce procès et la donna à un autre juge plus sévère. En effet, ce barbare eut le courage de tourmenter sans pitié un si beau corps ad torturam capillorum, c'est-à-dire qu'on donna la question à Béatrix Cenci en la suspendant par les cheveux. Pendant qu'elle était attachée à la corde, ce nouveau juge fit paraître devant Béatrix sa belle-mère et ses frères. Aussitôt que Giacomo et la signora Lucrèce la virent, « Le péché est commis, lui crièrent-ils. Il faut faire aussi la pénitence et ne pas se laisser déchirer le corps par une vaine obstination. « Donc vous voulez couvrir de honte notre maison, répondit la jeune fille, et mourir avec ignominie. Vous êtes dans une grande erreur. Mais puisque vous le voulez, qu'il en soit ainsi. » Et s'étant tournée vers les sbires. « Détachez-moi, leur dit-elle, et qu'on me lise l'interrogatoire de ma mère. J'approuverai ce qui doit être approuvé, et je nierai ce qui doit être nié. » Ainsi fut fait. Elle avoua tout ce qui était vrai. Aussitôt, on ôta les chaînes à tous, et parce qu'il y avait 5 mois qu'elle n'avait vu ses frères, elle voulut dîner avec eux, et ils passèrent tous 4 une journée fort gaie. Mais le jour suivant, ils furent séparés de nouveau. Les deux frères furent conduits à la prison de Tordinona, et les femmes restèrent à la prison Savella. Notre Saint-Père le Pape, ayant vu l'acte authentique contenant les aveux de tous, ordonna que sans délai, ils fussent attachés à la queue de chevaux indomptés et ainsi mis à mort. Rome entière frémit en apprenant cette décision rigoureuse. Un grand nombre de cardinaux et de princes allèrent se mettre à genoux devant le pape, le suppliant de permettre à ces malheureux de présenter leur défense. Et eux, ont-ils donné à leur vieux père le temps de présenter la sienne ? Répondit le pape indigné. Enfin, par grâce spéciale, il voulut bien accorder un sursis de 25 jours. Aussitôt, les premiers avocats de Rome se mirent à écrire dans cette cause qui avait rempli la ville de troubles et de pitié. Le 25e jour, ils parurent tous ensemble devant sa sainteté. Nicolas de Angalis parla le premier, mais il avait à peine lu 2 lignes de sa défense que Clément VIII l'interrompit. « Donc, dans Rome, s'écria-t-il, on trouve des hommes qui tuent leur père et ensuite des avocats pour défendre ces hommes. » Tous restaient muets lorsque Farinacci osa élever la voix. « Très Saint-Père, dit-il, nous ne sommes pas ici pour défendre le crime, mais pour prouver, si nous le pouvons, qu'un ou plusieurs de ces malheureux sont innocents du crime. » Le pape lui fit signe de parler, et il parla 3 grandes heures, après quoi le pape prit leurs écritures à tous et les renvoya. Comme il s'en allait, l'Altieri marchait le premier. Il eut peur de s'être compromis et alla se mettre à genoux devant le pape, disant « je ne pouvais pas faire moins que de paraître dans cette cause étant avocat des pauvres. » À quoi le pape répondit, « Nous ne nous étonnons pas de vous, mais des autres. » Le pape ne voulut point se mettre au lit, mais passa toute la nuit à lire les plaidoyers des avocats, se faisant aider en ce travail par le cardinal de Saint-Marcel. Sa sainteté parut tellement touchée que plusieurs conçurent quelque espoir pour la vie de ces malheureux. Afin de sauver les fils, les avocats rejetaient tout le crime sur Béatrix. Comme il était prouvé dans le procès que plusieurs fois son père avait employé la force dans un dessein criminel, les avocats espéraient que le meurtre lui serait pardonné à elle, comme se trouvant dans le cas de légitime défense. S'il en était ainsi, l'auteur principal du crime obtenant la vie, comment ses frères, qui avaient été séduits par elle, pouvaient-ils être punis de mort? Après cette nuit donnée à ses devoirs de juge, Clément VIII ordonna que les accusés fussent reconduits en prison et mis au secret. Cette circonstance donna de grandes espérances à Rome, qui dans toute cette cause ne voyait que Béatrix. Il était avéré qu'elle avait aimé Monseigneur Guerra, mais n'avait jamais transgressé les règles de la vertu la plus sévère. On ne pouvait donc, en véritable justice, lui imputer les crimes d'un monstre et on la punirait parce qu'elle avait usé du droit de se défendre. Qu'eût-on fait si elle eût consenti? Fallait-il que la justice humaine vînt augmenter l'infortune d'une créature si aimable, si digne de pitié et déjà si malheureuse? Après une vie si triste qui avait accumulé sur elle tous les genres de malheurs avant qu'elle eût 16 ans, n'avait-elle pas droit, enfin, à quelques jours moins affreux? Chacun dans Rome semblait chargé de sa défense. N'eût-elle pas été pardonnée si, la première fois que François Conci tenta le crime, elle l'eût poignardé? Le pape Clément VIII était doux et miséricordieux. Nous commencions à espérer qu'un peu honteux de la boutade qui lui avait fait interrompre le plaidoyer des avocats, il pardonnerait à qui avait repoussé la force par la force, non pas à la vérité au moment du premier crime, mais lorsqu'on tentait de le commettre de nouveau. Rome tout entière était dans l'anxiété lorsque le pape reçut la nouvelle de la mort violente de la marquise Constance Santa Croce. Son fils Paul Santa Croce venait de tuer à coups de poignard cette dame, âgée de 60 ans, parce qu'elle ne voulait pas s'engager à le laisser héritier de tous ses biens. Le rapport ajoutait que Santa Croce avait pris la fuite et que l'on ne pouvait conserver l'espoir de l'arrêter. Le pape se rappela le fratricide des Massini commis peu de temps auparavant. Désolé de la fréquence de ces assassinats commis sur de proches parents, sa sainteté ne crut pas qu'il lui fût permis de pardonner. En recevant ce fatal rapport sur Santa Croce, le pape se trouvait au palais de Monte Cavallo, où il était le 6 septembre pour être plus voisin, la matinée suivante de l'église de Sainte-Marie des Anges, où il devait consacrer comme évêque un cardinal allemand. Le vendredi à 22 heures, c'est-à-dire 4 heures du soir, il fit appeler Ferrante Taverna, gouverneur de Rome, et lui dit ses propres paroles. « Nous vous remettons l'affaire des Cenci, afin que justice soit faite par vos soins et sans nul délai. » Le gouverneur revint à son palais fort touché de l'ordre qu'il venait de recevoir. Il expédia aussitôt la sentence de mort et rassembla une congrégation pour délibérer sur le mode d'exécution. Samedi matin, 11 septembre 1599, les premiers seigneurs de Rome, membres de la confrérie des Confortatori, se rendirent aux deux prisons, à Corte Savella, où étaient Béatrix et sa belle-mère, et à Tordinona, où se trouvaient Jacques et Bernard Cenci. Pendant toute la nuit du vendredi au samedi, les seigneurs romains qui avaient su ce qui se passait ne firent autre chose que courir du palais de Monte Cavallo à ceux des principaux cardinaux afin d'obtenir au moins que les femmes fussent mises à mort dans l'intérieur de la prison et non sur un infâme échafaud, et que l'on fît grâce au jeune Bernard Sancy, qui, à peine âgé de 15 ans, n'avait pu être admis à aucune confidence. Le noble cardinal Sforza s'est surtout distingué par son zèle dans le cours de cette nuit fatale. Mais quoique prince si puissant, il n'a pu rien obtenir. Le crime de Santa Croce était un crime vil commis pour avoir de l'argent, et le crime de Béatrix fut commis pour sauver l'honneur. Pendant que les cardinaux les plus puissants faisaient tant de pas inutiles, Farinacci, notre grand jurisconsulte, a bien eu l'audace de pénétrer jusqu'au pape. Arrivé devant sa sainteté, cet homme étonnant a eu l'adresse d'intéresser sa conscience, et enfin il a arraché à force d'importunité la vie de Bernard Sancy. Lorsque le pape prononça ce grand mot, il pouvait être 4 heures du matin, du samedi 11 septembre. Toute la nuit, on avait travaillé sur la place du Pont-Saint-Ange aux préparatifs de cette cruelle tragédie. Cependant, toutes les copies nécessaires de la sentence de mort ne purent être terminées qu'à 5 heures du matin, de façon que ce ne fut qu'à 6 heures que l'on put aller annoncer la fatale nouvelle à ces pauvres malheureux qui dormaient tranquillement. La jeune fille, dans les premiers moments, ne pouvait même trouver des forces pour s'habiller. Elle jetait des cris perçants et continuels et se livrait sans retenue au plus affreux désespoir. « Comment est-il possible, ah Dieu, s'écriait-elle, qu'ainsi, à l'improviste, je doive mourir ?» Lucrèce Petroni, au contraire, ne dit rien que de fort convenable. D'abord, elle pria à genoux, puis exhorta tranquillement sa fille à venir avec elle à la chapelle, où elles devaient toutes deux se préparer à ce grand passage de la vie à la mort. Ce mot rendit toute sa tranquillité à Béatrix. Autant elle avait montré d'extravagance et d'emportement d'abord, autant elle fut sage et raisonnable dès que sa belle-mère eut rappelé cette grande âme à elle-même. Dès ce moment, elle a été un miroir de constance que Rome entière a admiré. Elle a demandé un notaire pour faire son testament, ce qui lui a été accordé. Elle a prescrit que son corps fût porté à Saint-Pierre in Montorio. Elle a laissé 300 000 francs aux stigmates, des religieuses des stigmates de Saint-François. Cette somme devait servir à doter 50 pauvres filles. Cet exemple a ému la signora Lucrèce, qui, elle aussi, a fait son testament et ordonné que son corps fût porté à Saint-Georges. Elle a laissé 500 000 francs d'aumône à cette église et fait d'autres legs pieux. À 8 heures, elles se confessèrent, entendirent la messe et reçurent la sainte communion. Mais avant d'aller à la messe, la signora Béatrix considéra qu'il n'était pas convenable de paraître sur l'échafaud, aux yeux de tout le peuple, avec les riches habillements qu'elle portait. Elle ordonna 2 robes, l'une pour elle, l'autre pour sa mère. Ces robes furent faites comme celles des religieuses, sans ornement à la poitrine et aux épaules, et seulement plissées avec des manches larges. La robe de la belle-mère fut de toile de coton noir, celle de la jeune fille de taffetas bleu avec une grosse corde qui ceignait la ceinture. Lorsqu'on apporta les robes, la signora Béatrix, qui était à genoux, se leva et dit à la signora Lucrèce : « Madame ma mère, l'heure de notre passion approche. Il sera bien que nous nous préparions, que nous prenions ces autres habits et que nous nous rendions pour la dernière fois le service réciproque de nous habiller. » On avait dressé sur la place du Pont-Saint-Ange un grand échafaud avec un cep et une manadja, sorte de guillotine. Sur les 13 heures, à 8 heures du matin, la compagnie de la Miséricorde apporta son grand crucifix à la porte de la prison. Giacomo Sensi sortit le premier de la prison. Il se mit à genoux dévotement sur le seuil de la porte, fit sa prière et baisa les saintes plaies du crucifix. Il était suivi de Bernard Sensi, son jeune frère, qui lui aussi avait les mains liées et une petite planche devant les yeux. La foule était énorme et il y eut du tumulte à cause d'un vase qui tomba d'une fenêtre presque sur la tête d'un des pénitents qui tenait une torche allumée à côté de la bannière. Tous regardaient les deux frères, lorsqu'à l'improviste s'avança le fiscal de Rome qui dit « Seigneur Bernardo, notre Seigneur vous fait grâce de la vie. Soumettez-vous à accompagner vos parents et priez Dieu pour eux. » À l'instant, ces deux confortatori lui ôtèrent la petite planche qui était devant ses yeux. Le bourreau arrangeait sur la charrette Giacomo Sensi et lui avait ôté son habit afin de pouvoir le tenailler. Quand le bourreau vint à Bernard, il vérifia la signature de la grâce, le délia, lui ôta les menottes, et comme il était sans habit devant être tenaillé, le bourreau le mit sur la charrette et l'enveloppa du riche manteau de drap galonné d'or. On a dit que c'était le même qui fut donné par Béatrix à Marzio après l'action dans la forteresse de Petrella. La foule immense qui était dans la rue, aux fenêtres et sur les toits, s'émut tout à coup. On entendait un bruit sourd et profond, on commençait à dire que cet enfant avait sa grâce. Les chants des psaumes commencèrent et la procession s'achemina lentement par la place Navone vers la prison Savella. Arrivée à la porte de la prison, la bannière s'arrêta, les deux femmes sortirent, firent leur adoration au pied du Saint Crucifix et ensuite s'acheminèrent à pied, l'une à la suite de l'autre. Elles étaient vêtues, ainsi qu'il a été dit, la tête couverte d'un grand voile de taffetas qui arrivait presque jusqu'à la ceinture. La signora Lucrèce, en sa qualité de veuve, portait un voile noir et des mules de velours noir sans talons selon l'usage. Le voile de la jeune fille était de taffetas bleu comme sa robe. Elle avait de plus un grand voile de drap d'argent sur les épaules, une jupe de drap violet et des mules de velours blanc, lacées avec élégance et retenues par des cordons cramoisis. Elle avait une grâce singulière en marchant dans ce costume, et les larmes venaient dans tous les yeux à mesure qu'on l'apercevait s'avançant lentement dans les derniers rangs de la procession. Les femmes avaient toutes les deux les mains libres, mais les bras liés au corps, de façon que chacune d'elles pouvait porter un crucifix. Elles le tenaient fort près des yeux. Les manches de leur robe étaient fort larges, de façon qu'on voyait leurs bras, qui étaient couverts d'une chemise serrée au poignet, comme c'est l'usage en ce pays. La signora Lucrèce, qui avait le cœur moins ferme, pleurait presque continuellement. La jeune Béatrix, au contraire, montrait un grand courage, et tournant les yeux vers chacune des églises devant lesquelles la procession passait, se mettait à genoux pour un instant et disait d'une voix ferme « Adoramus te, Christe ». Pendant ce temps, le pauvre Giacomo Sensi était tenaillé sur sa charrette et montrait beaucoup de constance. La procession put à peine traverser le bas de la place du pont Saint-Ange, tant était grand le nombre des carrosses et la foule du peuple. On conduisit sur le champ les femmes dans la chapelle qui avait été préparée. On y amena ensuite Giacomo Sensi. Le jeune Bernard, recouvert de son manteau galonné, fut conduit directement sur l'échafaud. Alors tous crurent qu'on allait le faire mourir et qu'il n'avait pas sa grâce. Ce pauvre enfant eut une telle peur qu'il tomba évanoui au second pas qu'il fit sur l'échafaud. On le fit revenir avec de l'eau fraîche et on le plaça assis vis-à-vis de la managgia. Le bourreau alla chercher la signora Lucrèce Petroni. Ses mains étaient liées derrière le dos, elle n'avait plus de voile sur les épaules. Elle parut sur la place, accompagnée par la bannière, la tête enveloppée dans le voile de taffetas noir. Là, elle fit sa réconciliation avec Dieu et elle baisa les saintes plaies. On lui dit de laisser ses mules sur le pavé. Comme elle était fort grosse, elle eut quelque peine à monter. Quand elle fut sur l'échafaud et qu'on lui ôta le voile de taffetas noir, elle souffrit beaucoup d'être vue avec les épaules et la poitrine découvertes. Elle se regarda, puis regarda la managgia, et en signe de résignation, leva lentement les épaules. Les larmes lui vinrent aux yeux, elle dit « Ô mon Dieu et vous, mes frères, priez pour mon âme !» Ne sachant ce qu'elle avait à faire, elle demanda à Alexandre, premier bourreau, comment elle devrait se comporter. Il lui dit de se placer à cheval sur la planche du cep. Mais ce mouvement lui parut offensant pour la pudeur, et elle mit beaucoup de temps à le faire. Les détails qui suivent sont tolérables pour le public italien, qui tient à savoir toute chose avec la dernière exactitude, qu'il suffise au lecteur français de savoir que la pudeur de cette pauvre femme fit qu'elle se blessa à la poitrine. Le bourreau montra la tête au peuple et ensuite l'enveloppa dans le voile de taffetas noir. Pendant qu'on mettait en ordre la manadja pour la jeune fille, un échafaud chargé de curieux tomba et beaucoup de gens furent tués. Ils parurent ainsi devant Dieu avant Béatrix. Quand Béatrix vit la bannière revenir vers la chapelle pour la prendre, elle dit avec vivacité « Madame ma mère est-elle bien morte ?» On lui répondit que oui. Elle se jeta à genoux devant le crucifix et pria avec ferveur pour son âme. Ensuite elle parla haut et pendant longtemps au crucifix. « Seigneur, tu es retourné pour moi, et moi je te suivrai de bonne volonté, ne désespérant pas de ta miséricorde pour mon énorme péché, etc. » Elle récita ensuite plusieurs psaumes et oraisons, toujours à la louange de Dieu. Quand enfin le bourreau parut devant elle avec une corde, elle dit « Lis ce corps qui doit être châtié, et délie cette âme qui doit arriver à l'immortalité et à une gloire éternelle. » Alors elle se leva, fit la prière, laissa ses mules au bas de l'escalier, et montée sur l'échafaud, elle passa lestement la jambe sur la planche, posa le cou sous la manadja, et s'arrangea parfaitement bien elle-même pour éviter d'être touchée par le bourreau. Par la rapidité de ses mouvements, elle évita qu'au moment où son voile de taffetas lui fut ôté, le public aperçut ses épaules et sa poitrine. Le coup fut longtemps à être donné parce qu'il survint un embarras. Pendant ce temps, elle invoquait à haute voix le nom de Jésus-Christ et de la très sainte Vierge. En note, en bas de page, un auteur contemporain raconte que Clément VIII était fort inquiet pour le salut de l'âme de Béatrix. Comme il savait qu'elle se trouvait injustement condamnée, il craignait un mouvement d'impatience. Au moment où elle eut placé la tête sur la manadja, le fort Saint-Ange, d'où la manadja se voyait fort bien, tira un coup de canon. Le pape, qui était en prière à Monte Cavallo, attendant ce signal, donna aussitôt à la jeune fille l'absolution papale majeure in articulo mortis. De là le retard dans ce cruel moment dont parle le chroniqueur. Le corps fit un grand mouvement au moment fatal. Le pauvre Bernard Sensi, qui était toujours resté assis sur l'échafaud, tomba de nouveau évanoui, et il fallut plus d'une grosse demi-heure à ses confortatori pour le ranimer. Alors parut sur l'échafaud Jacques Sensi. Mais il faut encore ici passer sur des détails trop atroces. Jacques Sensi fut assommé. Sur le champ, on reconduisit Bernard en prison, il avait une forte fièvre, on le saigna. Quant aux pauvres femmes, chacune fut accommodée dans sa bière et déposée à quelques pas de l'échafaud, auprès de la statue de Saint-Paul qui est la première à droite sur le pont Saint-Ange. Elles restèrent là jusqu'à 4h15 après-midi. Autour de chaque bière brûlaient 4 cierges de cire blanche. Ensuite, avec ce qui restait de Jacques Sensi, elles furent portées au palais du consul de Florence. À 9h15 du soir, le corps de la jeune fille, recouvert de ses habits et couronné de fleurs avec profusion, fut porté à Saint-Pierre in Montorio. Elle était d'une ravissante beauté. On eût dit qu'elle dormait. Elle fut enterrée devant le grand autel et la transfiguration de Raphaël d'Urbain. Elle était accompagnée de 50 gros cierges allumés et de tous les religieux franciscains de Rome. Lucrèce Petroni fut portée à 10 heures du soir à l'église Saint-Georges. Pendant cette tragédie, la foule fut innombrable. Aussi loin que le regard pouvait s'étendre, on voyait les rues remplies de carrosses et de peuples, les échafaudages, les fenêtres et les toits couverts de curieux. Le soleil était d'une telle ardeur ce jour-là que beaucoup de gens perdirent connaissance. Un nombre infini prit la fièvre, et lorsque tout fut terminé à 19 heures, c'est-à-dire 2 heures moins un quart, et que la foule se dispersa, beaucoup de personnes furent étouffées, d'autres écrasées par les chevaux. Le nombre des morts fut très considérable. La signora Lucrèce Petroni était plutôt petite que grande, et quoique âgée de 50 ans, elle était encore fort bien. Elle avait de fort beaux traits, le nez petit, les yeux noirs, le visage très blanc avec de belles couleurs. Elle avait peu de cheveux et ils étaient châtains. Béatrix Cenci, qui inspirera des regrets éternels, avait justement 16 ans. Elle était petite, elle avait un joli embonpoint et des fossettes au milieu des joues, de façon que, morte et couronnée de fleurs, on eût dit qu'elle dormait et même qu'elle riait, comme il lui arrivait fort souvent quand elle était en vie. Elle avait la bouche petite, les cheveux blonds et naturellement bouclés. En allant à la mort, ses cheveux blonds et bouclés lui retombaient sur les yeux, ce qui donnait une certaine grâce et portait à la compassion. Giacomo Cenci était de petite taille, gros, le visage blanc et la barbe noire. Il avait 26 ans à peu près quand il mourut. Bernard Cenci ressemblait tout à fait à sa sœur, et comme il portait les cheveux longs comme elle, beaucoup de gens, lorsqu'il parut sur l'échafaud, le prirent pour elle. Le soleil avait été si ardent que plusieurs des spectateurs de cette tragédie moururent dans la nuit, et parmi eux Ubaldini, jeune homme d'une rare beauté et qui jouissait auparavant d'une parfaite santé. Il était frère du signor Renzi, si connu dans Rome. Ainsi, les ombres des Cenci s'en allèrent bien accompagnées. Hier, qui fut mardi 14 septembre 1599, les pénitents de San Marcello, à l'occasion de la fête de Sainte-Croix, usèrent de leur privilège pour délivrer de la prison le signor Bernard Cenci, qui s'est obligé de payer dans un an 400 000 francs à la très sainte Trinité du Pont Sixte. La suite a été ajoutée d'une autre main. C'est de lui que descendent François et Bernard Cenci qui vivent aujourd'hui. Le célèbre Farinacci, qui par son obstination sauva la vie du jeune Cenci, a publié ses plaidoyers. Il donne seulement un extrait du plaidoyer numéro 66 qu'il prononça devant Clément VIII en faveur des Cenci. Ce plaidoyer en langue latine formerait 6 grandes pages et je ne puis le placer ici et dont j'ai les regrets. Il peint les façons de penser de 1599. Il me semble fort raisonnable. Bien des années après l'an 1599, Farinacci, en envoyant ses plaidoyers à l'impression, ajouta une note à celui qu'il avait prononcé en faveur des Cenci. « Omnes fuerunt ultimo supplicio effecti, excepto Bernardo, qui ad triremes cum bonorum confiscatione condemnatus fuit, agesiam ad interessendum aliorum morti pro ut interfuit. » La fin de cette note latine est touchante, mais je suppose que le lecteur est là d'une si longue histoire.